Tu écoutes CFLC Balado.
La radio de ton magazine qui fout la chienne.
Avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy. Disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Alors, salut Pierre Duquet.
Salut Lucas Jalbert.
Ça va bien?
Oui, une toute première pour nous sur ce...
CFLC Balado, alors qui est en fait un dérivé de notre, avec Samuel Roy, de notre projet de magazine BD Jeunesse, Ça fout la chienne. Donc, on a toujours dit que c'est un projet multiplateforme qui contient sa websérie, mais maintenant, le balado, le podcast.
Eh oui, et moi je m'y joins comme journaliste à la retraite.
Tout à fait.
Et je souligne ça parce que ce que je vais vous proposer au cours des prochains balados, il y en aura grosso modo un par mois.
Oui.
Il faudra être patient et se laisser désirer.
Exact.
Alors, je vais m'intéresser dans celui-ci, notre premier, aux ovnis.
Oui.
Ou aux humanoïdes, etc. Mais non pas comme un spécialiste, mais tout simplement comme un journaliste qui a fait une recherche, parce que sur YouTube, vous pouvez en trouver, sur Google, etc. Mais si vous n'avez pas le temps de faire ça, moi, je l'ai fait pour vous. Et si on se mettait, ou je me mettais à vouloir tout vous raconter, on en aurait pour probablement 10 ans, tant il y a de manières manifestations ou qu'il y a de vidéos, qu'il y a de gens qui racontent des histoires devenues plus ou moins sérieusement dans certains cas, ou encore mystiques, de façon mystique.
Bref, les possibilités sont infinies, donc on va avoir du sujet à traiter avec ce balado, donc qu'on réserve évidemment à notre public jeunesse, mais également aux parents qui pourraient s'intéresser à ça, parce qu'évidemment, il y a les adultes, évidemment, on s'adresse aux jeunes. En même temps, Pierre, tu vas leur faire découvrir l'histoire du paranormal, du surnaturel, les grands mythes, les grandes légendes,
de l'historique réel aussi.
Exact, là,
parce qu'on parlera éventuellement des trésors des nazis.
Ah, génial, ça.
Alors, il y a un peu d'épouvante là-dedans, malgré tout.
Malgré
c'est très
tout.
Mystérieux.
Effectivement. Et moi, je vais m'attarder au côté cinématographique de la chose, évidemment. En accord avec les sujets que tu vas nous proposer, moi, je vais toujours aller dénicher des classiques du cinéma à faire découvrir ou redécouvrir aux jeunes générations.
Comme dans ce premier balado, alors je parle des ovnis, tu auras donc des films correspondants
qui vont traiter de ce
à cette époque-là.
Exactement.
Et tu as aussi ton actualité.
Oui, on commence fort avec la chronique actualité qui va ouvrir tous les balados.
L'actualité qui fout la chienne.
De quoi nous parles-tu, Lucas?
Alors, The Conjuring 3, le fameux suite de la trilogie de La Conjuration, le célèbre film de James Wan, le troisième volet de la saga horrifique Conjuring va débarquer dans nos salles en septembre 2020. Mais pour vous faire patienter, le réalisateur Michael Chavez a posté dernièrement un premier visuel du film. Si on en croit les récentes déclarations de Vera Farmiga, l'interprète de Lorraine Warren, la fameuse démonologue qui est d'ailleurs décédée à l'âge de 92 ans en avril dernier.
Ah, la petite démon.
Conjuring 3 sera absolument énorme. Bon, évidemment, il y a une campagne de publicité derrière ça, là. Donc, mise en scène par Michael Chavez, qui est le réalisateur du film qui est sorti tout récemment, La Malédiction de La Llorona.
J'avais de la misère à dire ça.
Oui, moi aussi.
Est-ce que tu l'as vu?
Je l'ai vu.
Y aller. Oui.
Oui, je l'ai vu. J'ai bien aimé, évidemment. Bon, il y a beaucoup de déjà-vus, beaucoup de clichés, mais j'ai bien aimé la tournure un peu mexicaine, parce que c'est une légende mexicaine qui a été abordée au cinéma, donc avec les mythes, l'exorcisme à la mexicaine, donc Amérique latine.
Ça met un peu de piment, quoi.
Oui, ça met un petit peu de piment, tout à fait. Donc, tout ça le tournage va s'entreprendre ce mois-ci, donc en juin aux États-Unis. Et donc, on va vous partager cette fameuse photo sur... évidemment, le podcast, il est sonore, mais il va aussi être visuel sur nos plateformes YouTube, Facebook.
C'est ça. Et Conjuring, tu peux me rafraîchir la mémoire? J'en ai probablement vu un ou deux, je ne sais plus.
Oui,
là.
Tout à fait. En fait, c'est le couple Ed et Lorraine Warren qui vont enquêter sur des phénomènes. Et donc, c'est historique. Et bien que toujours basé sur un dossier Warren, parce qu'il y en a eu plusieurs, la poupée Annabelle, et tout ça. Conjuring 3 ne traitera pas d'une nouvelle histoire de maison hantée. Au contraire, il va se dérouler dans les années 80 et va s'intéresser à l'affaire dite du procès du démon. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, il ne s'agit pas de Lucifer devant un tribunal, là, mais d'un homme Arne Cheyenne Johnson, jugé pour meurtre, qui a invoqué la possession démoniaque comme excuse. Et une première donc dans l'histoire des États-Unis. Après enquête, les époux Warren ont témoigné en sa faveur en attestant qu'il était bien possédé par un démon au moment des faits. Donc, on peut s'attendre une fois de plus à être terrifié par des esprits malveillants qui vont venir tourmenter le couple de démonologues. Aussi, il va y avoir une sortie DVD au mois de juin. Donc avec...
Encore des DVD, ça existe encore?
Ça existe toujours! Deux ans après son oscarisé Get Out, qui était excellent, un film que je vous conseille, les jeunes, pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'acteur maintenant réalisateur Jordan Peele est de retour avec son deuxième long-métrage intitulé tout simplement Us, nous, qui est paru sur nos écrans ce printemps. Devenu l'un des metteurs en scène les plus adulés du cinéma d'horreur en très peu de temps, il nous a présenté donc dans les salles de cinéma un film qui traite sur les membres de la famille Wilson qui se voient soudainement être la cible de quatre meurtriers qui sont en fait leur double. Donc c'était excellent, moi j'ai adoré. Évidemment, bon, il y a eu beaucoup de comédie un peu au travers, ce qui est venu peut-être un peu atténuer l'effet dramatique, mais donc selon le site de nos amis du site Horreur Québec, la sortie DVD est prévue le 18 juin prochain. C'est le 19 avril dernier que s'achevait à Trois-Rivières le tournage du nouveau court-métrage Saint-Sacrifice de Jean-Claude Leblanc qui met en scène Luc Picard. Saint-Sacrifice raconte l'histoire d'un homme qui retrouve sa femme dans la vie après la mort. Le scénario s'inspire de la tragique histoire d'un client décédé dans le fameux bar au début des années 90.
Hey,
et oui, donc Horreur Québec.
J'ai pas vu passer ça.
Ouais, Horreur Québec a eu la chance d'aller visiter le plateau de tournage qui a grandement fait jaser la ville entière. Donc je vous invite à aller faire un tour sur leur site pour découvrir les super photos de tournage. Donc ils ont reconstitué une façade au bar, donc vraiment un peu mytho là. Et on peut enfin voir le nouveau look de Chucky. Tu te souviens, Pierre, la fameuse poupée Chucky qui fout la chienne.
C'est pas des cannes de soupe, ça là.
Ouais, non, pas Chucky. Donc c'est le nouveau visuel, la nouvelle poupée.
Mon Dieu, ils l'ont rendu un peu plus sympathique ou plus dramatique?
Je sais pas, on dirait que c'est le nouveau Bruno de la nouvelle version de Passepartout. Donc Chucky, dans la plus récente bande-annonce du remake du classique, évidemment, de 1988, Chill Play, a été dévoilé par Orion Pictures. Donc vous pourrez découvrir cette vidéo-là. On se souvient pour les plus vieux qu'une mère donne à son fils une poupée pour son anniversaire, ignorant tout de sa nature sinistre.
Bien sûr.
Et enfin, pour terminer, le Québec est-il épargné par ces lieux d'épouvante qui donnent froid dans le dos, même aux plus courageux? Eh bien non, je crois que Pierre, tu vas nous en faire la preuve en nous démontrant que... Effectivement, dans tes chroniques, la belle province regorge d'histoires de fantômes, de possessions et d'esprits tourmentés qui sont souvent plus près de vous que vous le pensez. Alors, il vient de paraître une nouvelle bande dessinée, Les 5 endroits les plus hantés au Québec. Je connais le metteur en scène de tout ça, un gars que je connais très bien depuis, je te dirais, mes 14 ans, quand j'étais au Festival de la bande dessinée de Québec, Nicolas Michaud, un BDiste. Allé chercher plusieurs dessinateurs. La création de cet album a demandé beaucoup de recherches, de lectures et de visionnements vidéo. Chaque auteur s'est rendu sur place et, lorsque possible, visiter le lieu où se déroule l'histoire, laissant ainsi transparaître une authenticité, un réalisme frappant. C'est aux éditions Sawin et ça vient tout juste de paraître. Alors les jeunes, si vous cherchez une lecture d'été là, au bord de la plage ou dans le bois,
dans le bois le soir,
c'est tout désigné pour vous.
Tu croyais que l'expérience Ça fout la chienne n'était qu'un magazine? Détrompe-toi. C'est aussi une web-série qui vous raconte des histoires et sérieusement...
Ça fout la chienne.
Cabreau Productions présente... Mettant en vedette la jeunesse d'ici. La websérie tirée du magazine Ça fout la chienne. Disponible sur Facebook et YouTube. Attrape un magazine avant qu'il ne t'attrape. Abonne-toi.
Bon, alors, on va plonger dans les ovnis petit à petit. Alors, un événement que j'avais complètement oublié, étonnamment. Ça s'est passé le 5 novembre 1990 à Montréal, un ovni au-dessus, parce qu'on qualifie d'ovni, qui avait une dimension absolument incroyable, qui est demeuré stationnaire pendant 3 heures.
Je pense que c'est au-dessus de l'hôtel Place Bonaventure.
Hôtel Hilton Bonaventure.
Exact.
Et ce qui est quand même étonnant, c'est que beaucoup de phénomènes sont perçus en France d'ovni également. Alors, à 2 jours d'intervalle, là, c'est quand même assez intéressant. Alors, j'ai réuni ces deux événements ensemble à partir d'extraits de documentaires qui ont été faits là-dessus. Évidemment, c'est le résumé. Ces documentaires existent en entier sur YouTube si vous voulez aller les voir. Mais je pense avoir gardé la quintessence de ce qui s'est passé à Montréal en 90 et en France 2 jours avant. Et ensuite, on aura un petit complément.
Excellent. Donc, on écoute ça et on s'en reparle tout de suite après.
Thank you.
dossier. OVNI et extraterrestres.
En 2015, le Garpan tenait à souligner le 25e anniversaire de l'OVNI de la place Bonaventure à Montréal, apparition qui s'est produite dans la soirée du 7 novembre 1990. Le Garpan rappelle qu'il s'agit de l'événement OVNI le plus fameux de l'histoire de l'ufologie du Canada. D'après le rapport Gennett Hines, l'objet volant non identifié au-dessus de l'hôtel de la place Bonaventure mesurait 540 mètres et a survolé la métropole durant plus de 3 heures. Malgré l'avis des spécialistes, des centaines de témoins, incluant la police de Montréal, la GRC, malgré des documents photographiques incontestables, rien n'a été commenté par les autorités par la suite. Les documents photographiques dont on fait mention sont les photos prises par le photographe du quotidien La Presse, Marcel Laroche. Quant à l'engin, que des centaines de personnes ont pu observer pendant ces 3 heures, il a été décrit comme ressemblant à une sphère aplatie faite d'un métal sombre et poli. Tout autour, des lumières ambre jetaient des reflets verts et jaunes à travers les nuages. Il a été déterminé que l'engin avait la dimension de 5 terrains de football. Voici un extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le lendemain de l'événement, suivi du témoignage du commandant du service de police de Montréal.
Un phénomène plutôt étrange a été observé hier soir dans le ciel de Montréal. La police de la CUM et la GRC sont même venues sur les lieux à la demande de plusieurs témoins qui se trouvaient à la piscine du toit de l'hôtel Bonaventure. Voici ce qui s'est passé. Selon le rapport rédigé par la GRC, entre 2 et 5 lumières et un faisceau lumineux quasi stationnaire ont été aperçus dans le ciel la comté de 20 heures.
Je suis convaincu que j'ai vu quelque chose qui n'est pas fait par des terriens, là, ou qui n'est pas fait par quelqu'un de la Terre. C'est sûr, certain que ça venait de l'extérieur de la Terre. Puis après 15 ans, je suis encore aussi convaincu que je l'étais à ce moment-là.
Ce soir-là, un agent de la GRC a pu contacter les autorités militaires et les tours de contrôle. Il en est ressorti qu'il n'y avait aucune activité militaire au-dessus de Montréal. Pourtant, le commandant de la police de Montréal devait affirmer avoir clairement entendu le passage de F-18 en provenance de Bacotteville. Comme c'est souvent le cas après les apparitions supposées d'OVNI, tous les constats de police de Montréal et de la GRC sont devenus inaccessibles dès le lendemain de l'événement, après avoir été récupérés par des agents du NORAD, organisme voué à la protection du territoire nord-américain. 2 jours plus tôt, dans le ciel de France, soit le 5 novembre 1990 vers 19h, que s'est-il vraiment passé? Malgré le témoignage de milliers de témoins, l'animateur du documentaire portant sur l'apparition et le déplacement d'un énorme objet lumineux, visible dans toute la France, ne pouvait dire que ceci.
La version officielle ne permet pas de rendre compte des milliers et des milliers d'observations qui ont été faites ce soir-là, du sud-ouest au nord-est de la France.
Ce soir-là, les pilotes d'un avion en vol rapportent apercevoir un objet qui vole devant eux et qui n'apparaît pas sur le radar de bord ni sur ceux de la tour de contrôle. Toutefois, un témoin a pu filmer l'objet. Mais encore là, la séquence ne sera pas considérée comme étant la preuve qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre, malgré la description verbale qu'en a fait ce témoin par la suite. Voici un extrait du reportage de la station de TF1 présenté à la suite de cet événement.
Les images en 8 mm ont été tournées hier soir à Colmar à 19h, affirme M. Depin. Un phénomène lumineux, ce faisceau important et ce triangle que des centaines de personnes affirment avoir vu à la même heure en de multiples lieux. De Toulouse à Turin, de Bordeaux à Londres, plusieurs centaines de témoignages décrivent une manifestation lumineuse ayant traversé le ciel d'Europe d'ouest en est. Des témoignages de simples passants, mais aussi de professionnels comme des pilotes de ligne ou encore les contrôleurs aériens d'Orly qui pendant 1 minute ont aperçu un phénomène lumineux alors que leur radar n'enregistrait rien. L'observatoire de Munich affirme qu'il s'agit de l'explosion d'un météorite lors de son entrée dans l'atmosphère. Une hypothèse probable mais non confirmée selon les experts français.
Un ancien pilote d'avion, à la retraite, figure parmi les témoins. Et pour lui, la thèse du météorite ne tient pas. Non plus celle du 3e étage d'une fusée russe s'étant désintégrée dans l'atmosphère.
J'ai vu quelque chose d'inexplicable, et ça reste quelque chose d'inexplicable. Ces dimensions me sont apparues immédiatement comme gigantesques. Cette impression de lenteur majestueuse, ça m'a véritablement frappé. J'ai vraiment eu l'impression de voir passer une ville dans le ciel. Une ville, tellement ça m'a paru grand.
Alors, le complément dont je parlais, c'est que, à l'émission, tout le monde en parle, il y a plusieurs années de ça, un dénommé François Cébourbeau, est du réseau OVNI Alerte, qui est toujours d'ailleurs en action actuellement.
Et qui a commencé très jeune, lui, je pense qu'il s'est lancé là-dedans. Exact,
c'est ça.
Il était âgé de 16 ou 18 ans.
Une vraie passion pour lui.
Oui.
Et il n'est pas le seul, il y a eu Caso aussi, il y a les gens du Garpin dont on parlera dans quelques instants, là, qui sont à recueillir les témoignages un peu partout. Mais tout ça pour dire que, on entendait dans l'histoire de Montréal le 90, c'est que...
C'était très intéressant, d'ailleurs, ta capsule que tu nous as montrée.
Ce qu'on venait d'entendre, c'est qu'on disait les gens du NORAD, là, qui contrôlent, évidemment, les activités aériennes et les dangers d'invasion au Canada, étaient venus récupérer les documents, puis pouf, il n'y avait plus rien qui existait au sujet de ce phénomène-là. Et lui, Bourbeau, nous dit, quelques années après, tout le monde en parle, ben, que les gens du NORAD lui ont finalement confirmé qu'il y avait eu des repérage sur le radar. On écoute ça.
Et j'ai mis la main sur la photo de Marcel Larosse. J'ai pu la publier dans mon ouvrage. Et on voit clairement cet objet qui a été analysé dans le rapport Guénette-Hinds, Bernard Guénette au Québec, M. Richard Hinds pour la NASA, qui, avec un ordinateur et des logiciels adaptés, a pu calculer la dimension de l'objet qui équivalait à une ou deux fois la longueur d'un terrain de football. Et ça, c'est absolument fascinant parce que les policiers du SPVM ont eu le temps de se rendre sur les lieux. Les policiers à GRC se sont rendus sur les lieux. J'ai les rapports de police qui ont été détruits depuis. Moi, j'ai les originaux chez moi de ça.
Pourquoi ils ont été détruits?
Parce qu'on conserve pas ces documents-là. Ça prend trop de place dans les archives. On n'a pas de complot. Il faut s'enlever ça de la tête. Je pense qu'il faut agir autrement pour régler le problème. Et ça s'est rendu jusqu'au 22e de North Bay, la base militaire souterraine, qui, avec le NORAD, contrôle tout l'espace aérien canadien. Et on confirme là-bas que l'OVNI a été détecté sur les radars militaires canadiens.
Et moi, ce qui m'étonne dans cette histoire de Montréal, c'est génial. Que comment se fait-il que pendant 3 heures, il y a un seul photographe de la presse...
Monsieur Laroche.
C'est ça. Qui soit venu. Alors, à ce moment-là, en 90, où était le Journal de Montréal? Où était TVA? Où était Radio-Canada? Qui ont fait quand même un bulletin de nouvelles. On a vu l'extrait.
Mais le lendemain, je crois, hier soir,
c'est ça. Hier soir. Et tout est basé sur la photo de Laroche. C'est vrai qu'il n'y avait pas de cellulaire à l'époque.
As-tu remarqué dans toutes les histoires d'OVNI, d'apparitions? Toutes les photos sont floues, ou si on en a, sont quasiment pas bonnes, sinon on n'en a pas du tout.
Et c'est dans les nuages.
C'est dans les nuages, c'est toujours... Non, mais là, t'es stationnaire, on s'entend pendant 3 ou 4 heures, je crois.
Ouais, 3 heures, c'est ça.
Écoute, il y a quelqu'un qui aurait pu penser aller chercher un Kodak jetable, là.
Alors bref, ça demeure quand même curieux.
Je me souviens dans cette histoire-là qu'il avait appelé à l'aéroport de Montréal, je pense que c'était Mirabel à l'époque.
Ouais, tout à fait.
Il avait demandé, il voyait un Boeing qui était en train de passer sous l'OVNI, et ils avaient demandé à la tour de contrôle, est-ce qu'ils voyaient l'OVNI? Non, ils ont dit, on voit juste le Boeing, mais le Boeing, il était à quelle altitude, je sais plus à combien de pieds où il était, mais c'était déjà très haut, donc faut comprendre que l'OVNI était déjà très haut au-dessus.
On l'a établi grosso modo à 10 000 pieds.
Imagine, et c'était l'ampleur de combien de terrains de football?
Ben, on parlait de 2, certains, on parlait de 5.
Ah, ça commence à être gros,
mais c'était énorme.
Ouais.
Et aussi, il y avait des lumières qui étaient allumées avec des tours en construction, des projecteurs.
Ils les ont fait éteindre.
On les a fait éteindre parce qu'il y en a qui disaient, c'est les reflets.
C'est ça,
c'est...
Oui.
Il y a toujours une explication.
Il y a une aurore boréale.
En France, il s'est passé des choses aussi importantes. Ah. Et celui, dans celui de France, un monsieur qui était un ancien pilote qui dit que c'était gros comme une ville. Une ville.
Ça commence à être gros, là.
Et si on continue, il y a une théorie que François Cébourbeau a présentée à cette même émission de Tout le monde en parle, et elle n'est peut-être pas bête, elle peut sembler farfelue pour les sceptiques. Les extraterrestres ne viendraient peut-être pas nécessairement
du ciel, tout simplement.
Des espaces aux confins de l'univers, mais dans des espaces-temps différents.
Nous sommes dans un espace, mais eux, ils sont dans un autre, en parallèle.
Alors, on l'écoute raconter sa théorie.
Oh, intéressant.
Nous sommes en présence d'une civilisation qui manipule une technologie très en avance sur la nôtre, qui peut vivre parallèlement à nous, dans le même espace que nous, mais dans un temps différent. Mais il semble qu'on est en présence d'un phénomène qui manipule des corridors spatio-temporels. Eux, peut-être qu'en actionnant la mécanique de l'OVNI, créent une cassure spatio-temporelle. On devient visible pour eux, on devient leurs extraterrestres à eux, et eux deviennent visibles pour nous. Et d'ailleurs, ça pourrait expliquer pourquoi beaucoup de ces humanoïdes ont des réactions de surprise en nous voyant. D'ailleurs, ils sortent des crayons, des tubes noirs de 15 cm pour paralyser les témoins. Et on a une technique, on développe maintenant un moyen de se comporter face à un OVNI. Ça prend 3 observateurs, un qui reste au centre, un de chaque côté, et on demande à ces deux-là de marcher en se déplaçant de l'observateur situé au centre vers l'extérieur, de gauche et droite, en observant l'objet. Et je suis certain qu'à un moment donné, vous allez arriver à l'extrême limite du corridor où seulement votre tête, vous allez pouvoir faire ceci. L'OVNI disparaît, faire cela, et l'OVNI va être visible. Vous allez avoir trouvé la zone où le corridor s'arrête. Et si vous marchez vers lui, à la manière du kaléidoscope, comme j'ai vu le 14 juillet 1974, l'objet va se métamorphoser selon votre champ de vision. Il va prendre d'autres formes parce que votre position relative change.
Alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Hein?
Franchement, là, c'est génial.
Alors, de deux choses. On n'y croit pas, on y croit, mais c'est quand même c'est fascinant et c'est pas fou. Une petite pause.
Jingle et on revient tout de suite après.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site Internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Et pour poursuivre dans ce même émission de Tout le monde en parle il y a quelques années où était Bourbeau, il y avait aussi Michel Barrette et Tex Lecor, maintenant décédé en ce qui concerne Tex Lecor. Ouais. Et Tex Lecor n'avait jamais raconté ça. On l'écoute.
Une expérience que quand je pilotais, quand je suis revenu du Grand Nord une journée.
En quelle année?
Oh, c'est à peu près dans les années 78, 79. J'avais un voisin qui était assis avec moi en avant, puis à un moment donné, je lui dis, regardons, au bout de l'aile à droite, ils ont installé des tanks, des tue-tanks comme dans l'Est.
Ouais.
Mais ça, c'était complètement en forêt, là. Hein? Je veux dire, je voyais cinq dessus des ronds blancs. J'ai estimé ça à peu près à 60.
Que vous étiez en hydravion, vous?
Oui.
OK.
Puis à un moment donné, je comprends pas ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui vient jusque-là. Puis j'avais passé là souvent parce que c'était mon heading pour m'en revenir.
Vous les aviez jamais vus? Hein?
Puis j'avais jamais vu rien. Je dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui va là?
Des ronds de lumière, mais...
Non, c'était juste des ronds blancs, des grands, d'à peu près 60 pieds de diamètre.
Ben, ça volait ou c'est au sol?
C'était au sol, ça ne bougeait pas du tout. Puis à un moment donné,
le
type qui était avec moi me dit, hey, ça bouge, regarde, ça bouge. Puis là, je les ai vus partir, puis à un moment donné, ils ont monté en formation, les cinq, complètement devant le nez de l'avion, assez que moi, j'ai tiré sur le manche, j'ai pas été proche de faire un 360. Finalement, j'ai jamais vu une affaire de même. Mais là, tu parles pas de ça à personne, hein? Je retourne à Stena, puis...
Venez de le faire, là.
Je peux vous dire une chose, là. Au Centre de contrôle régional de Dorval, le CCR, ils ont des fiches spéciales de compilation de ce qu'ils appellent des sightings d'OVNI.
J'ai dit au Centre UFO à Montréal, à l'époque.
UFO Québec?
Oui. Je suis allé là, puis j'ai dit à un de mes amis qui a vu quelque chose de bizarre en salle. Le gars, il dit, viens ici, tu diras à ton chum, là. Il m'a montré... C'était sur les lignes de l'Hydro-Québec qui descendent de LG2,
voilà.
Qui viennent à Montréal, ce qui expliquerait souvent qu'il y a des pannes de courant à Montréal. Ils appellent à LG2, tout va très bien, en haut le courant descend, mais à quelque part ça coupe.
Les ovnis coupent souvent d'après le courant,
lui,
puis on le voit dans le film.
Ouais, d'après lui, les ovnis prendraient...
L'effet électromagnétique.
Oui, oui.
Hey, on se croirait dans un film de science-fiction, là, il voit ça passer devant lui, devant l'avion. Parce que c'est sûr, on va passer pour des fous. Période assez charnière, hein, pour m'être intéressé moi-même à lire les trucs paranormaux, tu sais, quand t'es adolescent, à la
Moi, j'adorais ça aussi.
J'allais fouiller les livres sur le sujet, puis l'ordinateur sur l'Internet par la suite. Et il y a une période entre les années 50 et 80, là, écoute, il y a une multitude d'observations.
Et je tiens à souligner que ça continue, hein, puisque le GARPAN dont on va parler tout à l'heure font des rapports annuels, puis il y en a tout le temps, puis à travers le monde, il y en a des milliers.
Il y a une fascination pour le phénomène UFO, autant au cinéma, là, à cette période-là. Il y a eu des films, ça pullulait.
Alors donc, il reste une dernière intervention, c'est celle de Michel Barrette, l'humoriste, là, qui n'en avait jamais parlé. Puis là, ce soir-là, tout le monde en parle.
Ils se sont laissés.
Là, il dit, je vais me faire tanner avec ça. Mais ce qu'il raconte, c'est quand même intéressant. Il était sur un navire de croisière, puis il sort sur le bastingage, et puis on est en pleine mer, c'est le soir. Alors, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de bar, etc.
Ouais,
écoute ce qu'il nous raconte.
Alors, ce que je vois... C'est trois sphères, imaginons trois boules de Noël, translucides. Et quand je dis translucide, je ne peux pas voir à travers, mais il y a une espèce de transparence dans les sphères et qui semble éclairer de l'intérieur. Et comme je n'ai pas de rapport avec le paysage, je ne peux pas savoir si c'est à 1 000 de moi ou à 10 000 de moi. Ça m'apparaît gros comme une lune. Tu sais, parfois, la lune est assez immense. Et ces trois sphères-là se déplacent. Ils sont comme... face au
un balai aérien.
Un balai, mais très lent. Okay. Il change de position. Et là, moi, je capote, je fais. Je regarde partout, je suis en train de vivre ça, moi, là. Je suis pas chaud, je suis pas drogué. Bon, OK, on s'entend. Mais je capote. Et là, les trois sphères disparaissent.
Pas de comme bruit? Si,
aucun bruit. Là, ils disparaissent, je me pince, je fais, j'ai-tu rêvé ça, c'est-tu correct, moi, là? Et ils réapparaissent à l'avant du navire. Les trois sphères réapparaissent, mais comme à l'avant de l'appareil, à l'avant du navire, mais en observation. Je dis en observation parce que s'il avait été dans le même axe, donc j'aurais eu une sphère qui aurait caché l'autre.
Ouais.
Mais c'est comme si ça déplaçait comme ça, et qui semblait, je dis niaiser, observer le navire.
Vous vous sentiez observé.
Oui, exactement.
Hey, c'est fou quand même.
Ouais.
Comment tu fais pour aller dormir après? Je sais pas, là.
Ben, ce que j'ai coupé, c'est évidemment, fou. Il raconte après qu'il est redescendu à la salle à manger, puis là, il a commencé à vouloir parler de ça, ses amis. Mais là,
hey,
on dit, bon, ben, écoute, va te coucher, là, t'as assez bu. Mais il disait bien là-dessus.
Il n'avait pas bu, il n'était pas drogué, rien.
Alors, moi, c'est pas terminé, mon affaire.
Ben non.
Je vais vous présenter un montage que j'ai réalisé, mais ça aurait pu durer des heures et des heures, parce qu'il y en a partout, des ovnis qui ont été repérés au Québec, notamment. Moi, je les ai concentrés, ce que j'ai retenu, dans la région de Québec, où... un peu plus loin, Rivière-du-Loup, il y a Saint-Jérôme, mais généralement, c'est Stoneham, c'est Lac-Beauport, etc. Mais je veux vous présenter d'où viennent ces sources. Leurs témoignages, souvent, sont en vidéo sur YouTube. Vous pourrez aller approfondir la chose ou lire leurs documents qui sont disponibles gratuitement, mais ils demandent des dons parfois pour tout le mal qu'ils se donnent. Alors, le GARPAN, c'est groupe d'assistance et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Oh lolo!
Et le GARPAN intervient auprès des témoins qui ont observé ou rencontré des ovnis en tant que groupe de recherche, le GARPAN reçoit hebdomadairement des notifications d'OVNI en vue de traiter scientifiquement les données qu'elles comportent, ces notices. Et ces données ont été structurées pour être transmises au Canadian UFO Survey au Manitoba, qui compile actuellement les statistiques, annuellement devrais-je dire, les statistiques canadiennes se rapportant aux OVNI depuis 1989. Et ces rapports sont aussi transmis au Service canadien de renseignement et de sécurité, le SCRS, au ministère de la Défense nationale et des Forces armées du Canada, à la Gendarmerie royale du Canada, à la Sûreté du Québec et à tous les grands quotidiens du pays. On voit que les quotidiens ne nous en parlent pas souvent, à moins que ce soit spectaculaire. Et le GARPAN souligne également que beaucoup des cas d'OVNI ne relèvent aucunement de canulars ou de la méprise, mais plusieurs des observations ou rencontres rapportées bénéficient d'indices de probabilité élevés ou très élevés, c'est-à-dire plus de deux témoins ou preuves vidéo et photographie. Alors moi, ce que j'ai fait un montage qui va nous conduire à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oui, là, ce ne sera pas une question de digue qui foire, mais ouais. Une rencontre avec un humanoïde par des enfants dans les années 1966.
Donc, c'est une rencontre du troisième type, si je comprends bien.
Oui, tout à fait. Et donc, deux de ces enfants-là, devenus des adultes, en 2010, racontent ce qu'ils ont vu. Ils ont fait le dessin. Ensuite, on va aller à Saint-Raphaël-de-Bellechasse en 78.
Ah mais ouais, ça, Saint-Raphaël.
Mais ça, c'est incroyable. Là. Les avions de Bagotville, les chasseurs, les tanks qui arrivent trois jours
en quelle
après.
Année? 1978?
18, c'est ça, Saint-Raphaël-de-Bellechasse. Ensuite, on a Sainte-Claire.
Wow, oui, alors, ça, Sainte-Claire, c'est tout près.
C'est assez particulier comme OVNI. Là, ça,
génial.
Ça ressemble à quelqu'un qui a une bouche ouverte avec des gens à bord.
Ah oui, qu'on oui voit, comme une baleine un peu.
C'est ça. Il y a Sainte-Croix-de-Lobinière aussi, okay, comme un énorme caillou. Il y a aussi Stoneham, Saint-Jérôme, Lac-Beauport.
Bon.
Et finalement, Rivière-du-Loup. Okay. Et ensuite, je vais vous raconter rencontre avec plusieurs humanoïdes ou histoires étranges à Donnacona, mais là, il n'y aura pas d'image, ça ne fait pas partie de ce montage, on va le faire après ce qui suit.
Excellent.
Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 2 juillet 1966. 23h30, rencontre avec un humanoïde. Après avoir observé une lumière tomber dans les parages, quatre jeunes rencontrent un humanoïde de 7 pieds, vêtu d'un manteau noir moulant à la texture spéciale et portant des lunettes bombées vers les tempes, qui leur barre le chemin en écartant les bras et en se penchant doucement la tête.
Si tu regardes là, en bas de la ceinture, là, normalement, on est fait, tout le monde est fait pareil. Là. Mm-hmm. Dans son cas, là, on ne voyait rien. Il n'y avait pas de ceinture, pas de poche, aucun. Quelque chose de slack, là. C'est pas slack, mais là, on dit ça. De lousse, là. Bouffant, parce qu'on se voudra. Aucun instrument.
Saint-Raphaël-de-Bellechasse, été 1978, midi. Des enfants voient passer à très grande vitesse au-dessus de leur maison un objet non identifié. L'objet est noir et étrangement flou, comme s'il vibrait. Quelques minutes à peine après son passage, trois chasseurs de l'aviation canadienne venant de la même direction passent au-dessus de cette même maison. Voici les extraits du témoignage recueilli par le Garpin de celle qui était une jeune fille à l'époque.
Et tout d'un coup, il y a une grosse vague de vent qui nous frappe de plein fouet. Et ça a été ça en premier qu'on a senti. Un grand coup de vent, là. Puis moi, j'avais les cheveux très, très longs à cette époque-là. Fait que je me suis ramassée avec les cheveux dans la figure. Après ça, on a vu passer très, très rapidement quelque chose. C'était pas nécessairement très grand, mais c'était noir. Pas le lendemain, peut-être deux, trois jours plus tard, oui. L'arrivée des troupes, des tanks qui entouraient la maison, là.
Sainte-Claire, automne 1989. Des chasseurs voient clairement passer un vaisseau au-dessus du rang 4 et venir s'immobiliser au-dessus de la centrale électrique. Le vaisseau a une forme étrange, comme une bouche ouverte à l'avant qui laisse voir deux humanoïdes à l'intérieur. Voici des extraits du témoignage des témoins recueillis par le Garpin.
Mais moi, je peux te dire une chose, c'est que si j'avais pris mon codec avec les longues vues, t'aurais une photo de reptilien. La forme du crâne, le visage comme je le voyais, à distance qui était là, c'était des reptiliens. Puis c'était les mêmes reptiliens, le même type de reptilien que tu vois dessiné dans Contact 150.
Sainte-Croix-de-Lobinière, le 13 août 2001, 22h45. Apparition d'une énorme masse sombre dans le ciel. L'engin avançait lentement et silencieusement. Il est passé au-dessus des maisons et les témoins indiquent qu'ils croyaient voir une énorme roche et qui dégageait une fumée, un peu comme une vapeur. L'engin serait passé environ 20 pieds au-dessus du toit de l'école avant de disparaître. Stoneham, le 15 août 2006, 4h15 de la nuit. Apparition d'un ovni qui longe l'autoroute sous les nuages. Le témoin raconte qu'un gyrophare blanc est apparu dans le nuage qui recouvrait le sommet de la montagne. Il croyait d'abord apercevoir un hélicoptère. Toutefois, en quelques secondes, le gyrophare a laissé sa place à un vaisseau ovale immense, aussi grand qu'un Boeing 747, ajoute le témoin. Il adoptait la forme ovale allongée de couleur gris foncé et des hublots le ceinturaient. Saint-Géraud, 4 mai 2013, 2h45. Cette nuit-là, le témoin n'arrivait pas à dormir. Il s'est servi de son télescope pour observer le ciel, croyant pouvoir observer un point lumineux et coloré qu'il avait vu dans la soirée. Puis, en changeant son télescope de direction, il aperçoit ce que le Garpin qualifie de porte dimensionnelle. Le témoin indique que l'objet très brillant d'un blanc pur avait la forme d'un rectangle non parfait, un peu trapézoïde, à une extrémité. Une boule blanche devait s'en détacher quelques instants plus tard en laissant une traînée blanche derrière elle, en faisant entendre comme un sifflement.
Quand elle avait pris de la distance, parce qu'à la portion de tous les arbres, là, était à peu près en dessous au champ, puis c'est vraiment là que j'ai entendu. Mais c'est aussitôt que j'ai vu ça partir, décoller, mais c'est comme là, ça a tout, vraiment tout capté mon attention. Il y avait plus juste ça, parce que ça bougeait. Tandis que l'autre, ça bougeait pas, là, mais tout ça fait tellement vite.
Lac Beauport, le 18 septembre 2015, vers 18h38. Observation d'un objet non identifié au-dessus du Mont Cervin. Le témoin raconte qu'il a vu apparaître une lumière blanche et puissante qui s'élevait derrière le Mont Cervin. Il voit ensuite la lumière blanche s'éteindre un peu comme un flash de caméra. Cette lumière est plus grande que celle d'un avion ou d'un hélicoptère. L'objet foncé et de forme ovale se déplace avec un mouvement saccadé. Le témoin a photographié le Mont Cervin par la suite et a ajouté des points pour la lumière et des points gris foncé pour le mouvement de l'objet. Rivière-du-Loup, le 3 septembre 2016, 22h20. l'apparition d'un anneau parfaitement formé dans le ciel, semblable à l'anneau de fumée de cigarette que l'on forme avec la bouche et qui soudain fait des mouvements de droite à gauche. Les témoins disent que la forme arrêtait de bouger puis recommençait. L'observation a duré environ 10 minutes. L'un des témoins étant graphiste, il a dessiné la reconstitution de ce qu'il a vu.
J'écoutais ça. Bon, Sinclair, je connais très bien la centrale électrique là, qu'on voit en arrivant, tout juste avant d'arriver au village. Et Sainte-Croix, c'était juste au-dessus de la polyvalente Pamphile Lemay que je connais bien aussi. Donc, c'est fou quand même de savoir qui est arrivé.
Mais le cas de 78, là, Saint-Raphaël, là, écoute, l'armée arrive trois jours après.
Ah oui, ça débarque, toi. Tu sais que je t'ajoute un autre événement dans notre région.
Oui, vas-y.
En fait, c'est mon père qui a vécu ça dans les années 60.
Il n'en a pas parlé à personne, j'imagine?
Tout à fait. Exactement. Surtout dans les années 60. Lui, il étudiait à l'école de Saint-Damien de Buckland, et son père avait été le ramener là pour le début de la semaine, donc le dimanche soir, il avait été le reporter, puis en sortant les valises du coffre, mon père a remarqué dans le ciel un point lumineux qui était stationnaire à un moment donné, qui a fait en forme de triangle, mais très rapide. S'est déplacé très rapidement sous forme de triangle, puis par la suite s'est déplacé très loin vers le sud et a disparu derrière les montagnes. Et mon père demandait à son père, mais c'est quoi ce panne? Il dit, on parle pas de ça, on va passer pour des fous. Et même moi, à Saint-Malachie, dans Bellechasse, j'ai aussi vu quelque chose par un après-midi au chalet. J'ai vu un point lumineux qui se déplaçait assez bizarrement, comme sous forme d'un cigare un peu argenté. Là. J'ai jamais su c'était quoi.
Mon dernier cas, il n'est pas sur le montage. Il s'est passé à Donnacona, mais à plusieurs reprises entre 2009 et 2016. C'est à prendre ou à laisser. Je vais vous en faire un résumé. C'est un monsieur qui dit « Je les ai rencontrés dans le bois. Je suis arrivé face à face avec un. Puis il est resté surpris que je puisse le voir. Puis il a retourné de bord. Puis il est parti bien vite. Mais il a longé la rivière. Et quand il a longé la rivière, il n'y avait pas un arbre. Donc je l'ai très bien vu. Il flottait dans les airs. Et là, il dit « Avec mon appareil photo, j'ai photographié un cheval sur les terres, parce que ça se passe en campagne. Et puis, à un moment donné, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le boisé qui avait l'air bizarre. Alors, j'ai agrandi l'image, puis j'ai passé sur mon appareil, puis, oups! En agrandissant l'image, on voyait très bien un autre genre d'individu très petit qui se tenait avec ses mains tout en regardant ce qui se passait dans le chalet, parce qu'il était en train d'écornifler. Il regardait le groupe qui festoyait. Et là, à un moment donné...
Une même mère, qu'on appelle.
Le propriétaire du coin, du lieu, saisit mon Kodak. J'ai dit, Christy, j'ai pas fait exprès. Alors finalement, on aimerait que tu arrêtes les gens de la place, là, que tu arrêtes d'aborder ce sujet. On ne veut pas que tu envahisses nos terres. Ces choses-là sont là depuis longtemps. Ça fait longtemps que c'est là, ça a toujours été là. Du moins, je réalise que je suis pas fou et que je n'ai pas halluciné. Tu sais, le bonhomme dit finalement, si on me dit que ça a déjà
ça a
existé.
Été là.
Alors finalement, sa photo, on l'a jamais vue. Et un peu plus tard, puisque ça s'est passé de 2009 à 2016, monsieur revient encore sur un tronc d'arbre. Monsieur s'était capoté parce qu'il parle au garpin, là, soit dit en passant. Okay. Alors un visage est sorti à même l'écorce. Mais quand je me suis reviré, ça a refermé les yeux. Cette chose-là me suivait. Donc là, j'ai compris qu'ils ont aussi l'effet caméléon.
Oh,
Donnacona que ça s'est passé.
Aurait-il trop bu?
Ben, c'est ça.
Alors, apprendre ou à laisser.
Mais, et en conclusion de ces ovnis aujourd'hui, nous ne sommes pas nécessairement des vendeurs pour vous dire que ça existe.
Non, c'est juste
pas.
Pour vous titiller la curiosité, ouais. D'aller peut-être approfondir les sujets. Tu sais, les jeunes, des fois, aiment ça se raconter des peurs, découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est, quand c'est dans notre coin, c'est d'autant plus intéressant.
Mais il y a tellement de rapports d'année en année. Évidemment, on peut supposer que les technologies ont évolué. Ça peut être des véhicules créés par les puissances les plus à même de le faire, les États-Unis. La Russie, etc., là, bon, des véhicules. Mais dans les années 60-70, là, c'était pas évident. Alors, évidemment, il y a toujours des phénomènes lumineux qui peuvent s'expliquer. Toi, ce que ton père a vu, ça me semble des mouvements assez inhabituels.
Très rapide.
Bon, c'est ça, une étoile peut pas faire ça.
Non, exactement. Puis, c'était tout à l'époque où il y a eu Roswell dans les années...
47,
c'est ça. Oui. Ensuite, il y a eu la fameuse zone 51, la fameuse base dans le désert du Nevada où on voyait des objets... Faisant comme des tests, est-ce que bon, ils ont ramené la fameuse soucoupe trouvée, l'extraterrestre de Roswell, à la base 51 pour accaparer cette technologie puis essayer de l'adapter à la nôtre? Bon, il y a tellement de choses possibles et inimaginables, donc à vous de faire vos propres recherches.
Et le cinéma, par contre, oui. nous fascine avec ça.
Exactement, donc on se lance avec la chronique cinéma.
Cinémaniaque. La chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction.
Le premier film qu'on va vous parler, donc, c'est le plus vieux des trois que je vous ai sélectionné. Parce qu'évidemment, le cinéma a toujours abordé le phénomène des extraterrestres et de la science-fiction, mais je te dirais à partir des années 50, avec les Russes, la menace russe.
J'ai vu ces films-là, moi.
Donc, l'attaque des soucoupes volantes.
La guerre des mondes.
La guerre des mondes, exactement.
En noir et blanc.
En noir et blanc. L'invasion des body snatchers, l'invasion des profanateurs de sépultures. Donc, c'est des extraterrestres qui prenaient la place des humains, mais sous leur apparence. Il y a eu par la suite The Thing, La Chose, dans les années 50, mais qui a été réadapté dans les années 80 par John Carpenter, qui est devenu un succès, un classique. Donc, évidemment, dans les années 90, la fameuse série X-Files, avec Mulder et Scully.
Ça, j'ai adoré.
Au-dessus de 250 émissions. Bon, on voit que ça a toujours fasciné l'imaginaire collectif. Et moi, je vous ai sélectionné, évidemment, c'est difficile de trouver des films à sélectionner. Bon, je dis des classiques, des incontournables qu'on ne pouvait pas passer à côté. Donc, le premier, le plus vieux des trois, il s'agit de Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. On écoute immédiatement la petite capsule résumée.
1977. Rencontre du troisième type.
Pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la ville, Roy Neary, un réparateur de câbles de l'Indiana, voit une soucoupe volante passer au-dessus de son camion. Barry, un petit garçon de 4 ans, est quant à lui réveillé par le bruit de ses jouets qui se mettent en marche. Dans le monde entier, d'autres personnes assistent avec étonnement à des événements aussi spectaculaires qu'inexplicables. Une rencontre historique se met peu à peu en place.
Ah, j'ai adoré ce film.
Hein, ce film, 1977.
Ouais, puis il y avait Truffaut là-dedans.
Exactement, je vais t'en parler justement.
Réalisateur français.
Quelques petites anecdotes.
Qui parlait français.
Oui, exact.
Dans le film.
Un enfant, donc, dans l'encadrement d'une porte face à une lumière vive, 5 notes de musique à jamais associées au film. Les fameuses notes de musique, je ne sais pas les jeunes si vous avez remarqué, mais ça ne rappelle pas votre sonnerie d'école, votre cloche d'école les pauses et les récréations. Donc, Rencontre du troisième type a fêté ses 40 ans en 2017. Et évidemment, il y a plusieurs anecdotes autour de ça. Aux États-Unis, le film est sorti en décembre 77, donc pendant la semaine...
J'étais là!
Oui! Donc pendant la semaine où Star Wars épisode 4 a ravi aux dents de la mer le titre du plus gros blockbuster de tous les temps au terme de recettes. En termes de recettes, je disais, une coïncidence d'autant plus drôle que Steven Spielberg rend hommage au long-métrage de George Lucas à plusieurs reprises. Par exemple, dans l'OVNI mère, donc, de Rencontre du troisième type, on peut remarquer un petit R2-D2, la tête en bas. Donc, des petits détails comme ça.
Je l'avais pas vu, celle-là.
C'est aussi inspiré d'une histoire vraie. C'est puisant dans ses souvenirs d'enfance que Steven Spielberg a eu l'idée de Rencontre du troisième type. Le long-métrage se base en effet sur ce moment où, sans les avoir avertis au préalable, ses parents l'ont fait monter en urgence dans leur voiture avec ses trois sœurs pour les amener en pleine nuit dans un lieu où d'autres personnes étaient rassemblées afin d'assister à une pluie de météorites. Avant d'être un récit devenu classique du genre, Rencontre du troisième type aurait pu prendre une autre forme. Steven Spielberg envisageait dans un premier temps de réaliser un documentaire ou un film à petit budget sur des personnes croyant aux ovnis. C'est alors qu'il tournait Les Dents de la Mer que Richard Dreyfuss, le personnage principal, a entendu parler de Rencontre du troisième type, dont le casting était en cours. On avait envisagé Al Pacino pour son rôle.
Ça aurait fait drôle, me semble, là-dedans.
Jack Nicholson, Gene Hackman, Steve McQueen aussi avait été envisagé, mais il disait incapable de pleurer à l'écran, donc il a refusé le rôle. Pour le personnage de François Truffaut, on avait pensé à Gérard Depardieu, à Philippe Noiret, Yves Montand, Lino Ventura ou encore Jean-Louis Trintignant. C'est François Truffaut que Steven a confié le rôle de Claude Lacombe, personnage inspiré donc par l'expert devenu Jacques Vallée, parce que bon, il était un fan du réalisateur du film Les 400 coups, qui jouait pour la première fois sans être derrière la caméra. Donc, c'était du nouveau pour François Truffaut. Et évidemment, la fameuse montagne que tu me parlais, c'est de Devil Tower, la Tour du Diable. C'est pourquoi j'ai intitulé le tome 6 des aventures de ma série, Les aventures de Funky Punk.
On a un peu quelque chose qui ressemble à ça au Québec, c'est le Mont-Saint-Hilaire.
Absolument. Qui est
réputé pour les ovnis aussi.
Exact, aussi. Et, tout à fait. Et encore aujourd'hui, au pied de cette montagne, on diffuse à tous les soirs le film de rencontre du troisième type.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Et ton prochain sujet de film?
Écoute, un incontournable, 1979.
Ah!
Alien.
J'ai adoré, on écoute.
1979. Alien, le huitième passager.
De retour d'un voyage aux confins de la galaxie, le cargo commercial Nostromo ramène ses 7 membres d'équipage sur Terre. Un signal inconnu émanant d'un planétoïde tout proche les tire de leur sommeil artificiel. Intrigués, les équipiers décident de se poser sur la planète. Ils y visitent un vaisseau abandonné qui contient une couvée pour le moins étrange. L'un des équipiers est agressé par une des créatures contenues dans les œufs. De retour au vaisseau, l'équipage découvre la vérité. Le signal n'est pas un appel à l'aide, mais une mise en garde destinée aux malheureux voyageurs. L'horreur est en marche dans les couloirs sombres du vaisseau.
Et je dois te dire tout de suite que j'entendais récemment quelqu'un à la radio commenter l'impression qu'il avait eue d'Alien quand il avait vu le film. Elle est exactement la même chose que moi. C'est enfin une femme qui n'est pas recueillie dans le coin en train de crier puis de brailler.
Elle supporte le film.
Qui supporte le film.
Exact.
Qui, les gars tout disparaissent un derrière de l'autre. Elle, elle fait face. Alors, j'avais adoré. On était en 80 pratiquement, là. Alors, moi, j'étais déjà
Belle
fan.
Belle Sigourney Weaver.
J'étais déjà... Oui, puis en plus, elle n'est pas détestable du
exact.
Tout. Mais j'étais tout à fait, à cette époque-là, déjà très ouvert à ce que les femmes prennent leur place au cinéma puis qu'il y ait du punch.
Et là, Alien, le huitième passager, a consacré le talent de réalisateur de Ridley Scott, en plus de marquer profondément la culture populaire. C'est devenu une franchise, évidemment, mais le premier est un incontournable. Atteint de la maladie de Crohn, le scénariste souffre de douleurs à l'estomac intense lors de l'écriture d'Alien, le huitième passager. C'est ce qui lui donne l'idée de la fameuse scène où John Hurt accouche d'un xénomorphe. Donc, les autres comédiens n'ont pas été mis au courant des détails. Ah ouais, c'était épouvantable. Les autres comédiens n'ont pas été mis au courant des détails au moment du tournage. Donc, la réaction surprise de certains acteurs est réelle lors du tournage.
C'était quand même surprenant, ce film.
Et pas moins de 130 œufs d'extraterrestres ont été fabriqués pour les besoins d'Alien afin de leur donner une texture réaliste. L'intérieur était constitué d'estomac et de cœur de bœuf.
Oh là là.
Les lasers bleus illuminant la scène ont été prêtés à la production par le groupe de Who, qui pratiquait son spectacle dans le studio voisin.
Mais voyons donc.
C'est fou.
On a trouvé des détails. Une petite pause jingle.
Tout à fait, on revient avec le dernier film de ma liste.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Je m'appelle Edouard, je lis, je regarde, j'écoute, ça fout la chienne.
Alors, le troisième film que je vous propose, ça s'appelle Fire in the Sky, visiteur extraterrestre inspiré par une histoire qui c'est vraiment par des faits réels. Hein. On voit ça souvent au début des films.
1993, ça, je me souviens pas de ça.
Oui, ça passait un peu sous le radar. Moi, je l'ai découvert à l'époque. Écoute, c'est en VHS au Club Vidéo.
En VHS.
Et je me souviens de l'affiche, m'avait fasciné sur la pochette. L'homme qui est en plein milieu de la forêt, qui se fait happer par un rayon lumineux qui vient du ciel. Donc, Fire in the Sky. On écoute la petite capsule, puis on s'en rejoint juste après.
1993. Visiteurs extraterrestres.
Snowflake, États-Unis, le 5 novembre 1975. Travis Walton, un employé des eaux et forêts, est enlevé au beau milieu de la forêt par un vaisseau extraterrestre devant ses 4 collègues. Il disparaît pendant 5 jours, puis réapparaît sans mémoire des événements. Mais peu à peu, les souvenirs refont surface. Des souvenirs à glacer le sang.
Pas un documentaire, pas plus un documentaire, il s'agit d'une fiction prétendant retracer un fait réel ayant eu lieu en 1975. On pourrait croire de prime abord à lire la mention qu'une personne a vraiment été enlevée par d'étranges créatures venues d'ailleurs. Or, malgré les coupures de presse et les témoignages d'époque, le réalisateur adopte ici, sur les bases du livre autobiographique narrant l'histoire de Travis Walton, donc le fameux kidnappé de l'espace, le parti pris d'opter pour les deux points de vue. D'un côté, il nous sert l'illustration de cet enlèvement spatial. Cette séquence-là m'a terrorisé. et la réaction de ses collègues, des autres, la réaction de tout le village. Fire in the Sky est loin de garder les mystères troublants de l'histoire originale et on reste dans un trailer très romancé, façonné à la Made in Hollywood. C'est un bon film qui est moins connu du grand public mais que je vous conseille vivement parce que ça retrace les événements qui ont eu lieu en pleine forêt en 1975.
Ça te donne le frisson.
Tout à fait.
Et en parlant de frisson, t'as des histoires qui foutent la chienne, toi?
Oui, des histoires qui foutent la chienne. Alors, c'est le moment de sortir votre guimauve, de vous installer autour du feu. On se raconte une petite histoire qui fout la chienne avant de se quitter.
Et moi, je me retire, j'ai peur.
Il est l'heure. L'heure de se faire peur. Avec une histoire qui fout la chienne.
Je vais prendre ma voix de conteur. Ouais. Alors, l'histoire s'intitule « En bas des marches ». Je travaille dans une vieille école catholique. C'est un magnifique bâtiment bien entretenu et en bon état malgré ses plus de 100 ans. Il y a un sous-sol sous le gymnase où sont rangés tous les ballons, tapis, poutres et autres matériels sportifs. Mon Dieu, ça me fait penser au Patro de Lévis, ça. Hein? Un peu?
Ouais.
Un jour, on comprend que... où j'animais le cours de basket de 15h, on comprend que c'est un animateur pour les camps jeunesse. Une petite fille fit tomber un ballon au sous-sol. Il atterrit en bas des marches. La fillette s'est approchée des escaliers et a demandé « Tu peux me relancer le ballon, s'il te plaît? J'ai peur de descendre. » Je me suis approché d'elle. Je lui ai demandé « Bon, à qui est-ce que tu parlais? » « Ben, au monsieur en bas. » Qu'elle m'a répondu en pointant le sous-sol du doigt. « Eh bien, connard comme je suis descendu. »
Ce qu'on fait toujours dans les films d'horreur.
Toujours. J'ai appelé en vain, il n'y avait personne en bas et aucune autre issue excepté les escaliers par lesquels le ballon était tombé. J'ai ramassé ce dernier et je suis remonté. J'ai questionné les enfants sur cet homme. Ils l'avaient tous déjà vu, mais une sœur leur a dit de ne jamais en parler. Il n'y a plus de sœur dans cet établissement depuis 40 ans. Mais qui est cette sœur qui leur a dit de ne pas en parler?
Alors ça, c'est une histoire prévécue, inventée?
En fait, c'est des creepypastas. Je sais pas si tu connais ça, Pierre. Creepypastas, c'est des histoires écrites pour le web, destinées au web, donc des légendes urbaines.
Alors, on arrive à la conclusion de cette...
Premier CFLC balado. Ouais.
Alors, j'avais cette première, qui est une première.
C'est une première tout court. Alors, merci Pierre Duquet d'avoir embarqué dans ce projet.
Et le prochain balado, oui. Lucas Jalbert, oui. Je vais, moi, m'intéresser aux trésors nazis.
Oh lolo! Toi qui es fasciné par la Deuxième Guerre mondiale.
Il y a des histoires de lacs là-dedans.
Génial.
De gens qui se font assassiner pour tenter de retrouver ce qu'ils pensent être des caisses de lingots d'or, etc. Oui. C'est l'histoire, c'est historique.
Génial. Hein? J'ai hâte de découvrir ça. Alors, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, où que vous soyez. Alors, salut à tous les jeunes, à leurs parents et à tous nos auditeurs. Et continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook, évidemment, du magazine Ça fout la chienne, notre chaîne YouTube.
Nous sommes sur Balado Québec.
Et nous sommes sur Balado Québec. Premièrement, sur forme sonore, évidemment.
C'est ça. Et ensuite, dans la version YouTube, ben, vous aurez des images
sur
ce qu'on a rencontré, des extraits, etc., puisés ici et là, pour vous donner encore plus...
La chienne.
Voilà.
Alors, continuez à vous raconter des histoires qui foutent la chienne. Au revoir.